le cadre de la démarche participative Tous paysans en Brionnais, une journée de réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation dans le Brionnais s'est tenue le 23 mai dernier, avec pour thématique principale du bocage brionnais à la production d'une alimentation de qualité sur le territoire. Ont été notamment abordées les potentialités et solutions durables à travers la diversification, l'installation, les circuits courts ou encore les labels. La troisième table ronde était orientée plus particulièrement sur les stratégies pour le maintien et le développement de fermes sur le territoire, le bocage brionnais, diversification, évolution des pratiques, pluriactivité, multifonctionnalité. Et pour évoquer ce sujet, plusieurs intervenants autour de la table. Écoutons tout de suite les trois premières interventions avec Dominique Fayard, chargé de mission au pays charolais brionnais, Alain Canet, directeur de Arbres et Paysages dans le Gers et président de l'Association française d'agroforesterie, et écoutons également Éric Niguet qui est formateur au CFPPA de Charolles.
Nous allons donc avoir, avec la complicité des six intervenants ici, je les remercie d'avance d'accepter leur frustration au niveau du temps de parole, une troisième table ronde, plus globale peut-être comme thématique par rapport à ces deux tables rondes du matin, centrée l'une sur les circuits courts et la deuxième sur les signes de qualité, puisque là nous allons réfléchir sur des stratégies pour le maintien et le développement sur ce territoire, d'une part de l'agriculture et d'autre part d'autres activités qui peuvent s'y raccorder, puisque vous avez bien compris que c'est bien l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés par le développement du territoire qui ont été impliqués et qui seront encore dans la démarche. Donc en premier, nous allons faire un tour de table pour que vous sachiez tous un peu la complémentarité des différents intervenants ici présents. Et puis nous écouterons à nouveau Dominique Fayard dans la foulée, qui nous présentera certains aspects avec un, concernant le bocage en pays brionnais, mais avec des éclairages un peu différents de ce qu'elle a pu brièvement dire ce matin. Voilà. Alain Canet, vous vous présentez en un mot. Vous l'avez déjà, vous êtes déjà situé ce matin, mais
ouais,
vous pouvez dire un petit peu plus.
Donc en premier lieu, je suis directeur d'Arbres et Paysages 32, une association qui fait de l'agroforesterie dans le département du Gers avec 8 salariés et 800 adhérents, président de l'Association française d'agroforesterie et référent PAC à Bruxelles pour le compte de la Fédération européenne d'agroforesterie, et à mes heures perdues, éditeur pour Madame la Ministre chez Actes Sud de la Culture.
Donc Dominique Fayard, je me suis présentée ce matin, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes
sûrement
qui sont là, donc je suis toujours chargée de mission au pays charolais-brionnais, basée à Paray-le-Monial, où je m'occupe du projet d'inscription du paysage culturel de l'élevage bovin charolais au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Éric Niguet, moi je suis formateur au CFPPA à Charolles, donc je suis logé juste à côté. Je suis là depuis 25 ans. Je travaille principalement en BPREA, donc c'est des jeunes qui se destinent, des jeunes et moins jeunes qui se destinent à l'installation pour la plupart.
Alors voilà.
BPREA, c'est ouais, brevet voilà. Professionnel, responsable d'exploitation agricole, bientôt d'entreprise agricole d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Je suis aussi conseiller au niveau du PPP, c'est-à-dire c'est le plan de professionnalisation personnalisée dans le parcours à l'installation.
Isabelle Janin, moi je viens du territoire voisin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers Rouen, du Rouennais. Je suis agricultrice avant tout, agricultrice en élevage limousin et un petit peu de Highland et des brebis. Je suis en agriculture biologique, donc conduis la ferme d'agriculture biologique depuis 1992 et on pratique la vente directe de à peu près 80% de la production depuis 1989. C'est une ferme qui a aussi fait de l'accueil pendant 10 ans d'enfants du scolaire, des scolaires de Rouen. On a aussi une démarche culturelle, puisque tous les deux ans, on organise un festival d'art contemporain en lien avec une association qui est partie un peu de la vente directe, justement, s'appelle Polyculture. On accueille 2000 personnes sur la ferme. Le but est de montrer, de porter un autre regard sur l'agriculture. La ferme a reçu d'ailleurs l'an passé le prix spécial du jury du paysage. Voilà, donc autrement, je suis secrétaire d'un groupement d'agriculture bio, donc l'Ardab entre Rhône et Loire. Et puis, avec les producteurs de l'Ardab, on a fondé dans le Rouennais une association qui s'appelle Vivre Bio en Rouennais. Et avec les consommateurs, il y a 150 personnes, deux tiers consommateurs, un tiers producteurs, pour développer une alimentation saine, de qualité, de proximité et accessible à tous. On travaille aussi avec les publics précaires, les centres sociaux, tout ça, pour une autre alimentation et sensibiliser les gens à une autre alimentation. Et donc j'interviens aujourd'hui pour Étamine, c'est une association dans laquelle on est présent. C'est un espace test dans le Rouennais. Je vous expliquerai mieux tout à l'heure.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jacques Viretti. Je suis à la Fédération Nationale Accueil Paysan. Je suis chargé de développement. Donc, la Fédé Nationale Accueil Paysan, dont le siège est situé à Grenoble. J'étais pas là ce matin. Je suis arrivé au meilleur moment, le moment du repas. Donc, on m'a dit que c'était très riche. J'espère que ce sera pareil cet après-midi. Et je vais vous présenter un petit peu pas forcément les résultats, mais en tout cas les avancées sur un projet sur lequel je travaille, qui consiste plutôt à faire le lien entre les activités d'accueil et les pratiques en agroécologie. Voilà.
Alors, Pierre Largy, éleveur dans l'Autunois et viticulteur en Côte d'Or. J'ai quelques vignes là-bas. Et là, je vais intervenir sur mon parcours et ce qui m'a amené à la diversification sur mon exploitation et à me donner comme priorité la qualité de vie plutôt que le rendement et la compétitivité. Voilà.
Merci. Voilà, beaucoup de provenances différentes, peut-être encore plus que pour les tables rondes de ce matin, vous l'avez remarqué. C'est intéressant, potentiellement très intéressant, mais on commence par le Brionnais, en vous donnant la parole, Dominique Fayard.
Merci.
Pour du bocage, mot-clé, bocage brionnais, son histoire et comment voilà. Il devient un élément de caractérisation pour ce pays avec l'obtention recherchée du label UNESCO.
Voilà, donc ça va être une synthèse de la synthèse, hein, parce qu'en 8 minutes, revenir sur l'historique du bocage, c'est un défi. D'abord, le bocage, définir le mot, c'est un paysage de haies. Pour ça, je vous renvoie notamment aux travaux de Jacques Baudry de l'INRA Rennes, qui en parle très bien dans ses publications. En Charolais brionnais, il est associé à une production agricole dominante, hein, on l'a vu, l'élevage extensif des bovins allaitants. Il faut savoir qu'à ce paysage de bocage, entièrement ou presque voué à l'air, précédé un paysage de polyculture qui s'est transformé à partir du XVIIe mais surtout du XVIIIe siècle pour laisser place à un paysage progressivement dominé par l'herbe et marqué par les haies et les murets de pierres sèches. Donc c'est un territoire qui, vous le voyez à l'écran, a été structuré par l'élevage. Donc il y avait un réseau de haies déjà avant l'élevage, mais il s'est véritablement structuré à partir du XVIIIe siècle en lien avec le développement de l'élevage et la spécialisation des espaces. Et le développement de cet élevage bovin charolais est lié à l'époque à la conjonction de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres favorables. D'abord des conditions naturelles particulières en termes de géologie, de pédologie et de climat qui favorisent la pousse de l'herbe et une herbe de qualité. Ensuite, des conditions techniques et scientifiques liées à la génétique, des conditions aussi propres aux savoir-faire locaux en termes de sélection des animaux, de conduite des troupeaux, etc. Des conditions, bien sûr, socio-économiques qui ont été déterminantes pour l'émergence du système, puisque sans augmentation massive de la consommation de viande, il n'y aurait pas eu le développement aussi important de cet élevage. Et aussi la proximité de débouchés urbains, en particulier le marché lyonnais, mais aussi le marché marché stéphanois et également plus lointain, mais le marché parisien. Et le développement du chemin de fer dans la seconde moitié du 19e siècle a permis d'accéder et d'approvisionner ces marchés. Donc la diffusion de l'herbe a commencé d'abord au cœur du Brionnais, dans des communes que vous connaissez, Oyer, Saint-Christophe-en-Brionnais, Sarry, etc. C'est dans cette zone initiale de l'embouche brionnaise que le phénomène a démarré et ensuite il s'est étendu aux communes environnantes progressivement, puis aux cantons environnants, etc. Et ça pendant le 19e et le 20e siècle. Et là je vous renvoie à mon ouvrage sur la commercialisation du bétail qui décrit très bien, carte à l'appui, ce phénomène. C'est un phénomène qu'on appelle le couchage en herbe, où les terres cultivées ont été progressivement converties en prés. En même temps, donc l'herbe a gagné jusqu'à devenir aujourd'hui la principale composante de l'occupation du sol et du territoire. Donc on est passé d'un système qui était un système de polyculture-élevage, en partie autarcique, à une économie ouverte sur le monde et fondée sur un élevage et une race bovine. Cette évolution s'est accompagnée d'un enrichissement économique. Ça, on le voit encore dans l'architecture. Il doit y avoir une diapo qui correspond. Voilà. Avec ces maisons dites d'embouchures, notamment que vous voyez imposantes, qui témoignent de l'importance dans l'histoire qu'a eu la commercialisation du bétail dans le développement économique local à ces époques, 18e, 19e et début du 20e siècle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière ce paysage qui est verdoyant et qui de prime abord pourrait apparaître comme homogène, se cache en fait un système d'élevage complexe avec donc une variété importante au niveau de la géologie du sous-sol du Charolais-Brionnais, qui est à l'origine d'une grande hétérogénéité des sols et avec une alternance de collines et de vallons différemment exposés qui en fait offre une large palette de prés avec chacun des qualités propres. Donc vous avez des prés d'engraissement qui voisinent avec des prés d'élevage, etc. Et à l'échelle de l'exploitation, l'éleveur peut donc avoir une complémentarité entre les parcelles. Et ça, c'est un phénomène qu'on suit particulièrement exploiter et mettre en valeur les embouchures, c'est-à-dire ceux qui engraissaient le bétail maigre à l'herbe, donc en particulier au 18e, 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle, avant que le système dont parlait entre autres Monsieur Balladier ce matin, d'élevage bovin laitant tel qu'on le connaît aujourd'hui, se développe massivement en lien avec les nouveaux débouchés, notamment dans un cadre européen, etc. Alors le lien, sur le lien entre la qualité des parcelles et les couches géologiques, je vous renvoie aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet d'AOP Bœuf de Charolles et en particulier aux travaux de notre géologue Frédéric Gaudry. Et donc dans ces sols, vous avez beaucoup de phosphore, et c'est ce phosphore qui est ingéré par les bovins dans l'herbe qu'ils consomment et qui leur permet de grossir en fait sans leur donner d'aliments complémentaires ou presque. Et donc on aboutit à une herbe qu'on dit plus ou moins forte et qui peut parfois être violente. Et là je vous renvoie aux travaux de ma collègue ethnologue Bernadette Lizet. Donc en fait on a un système d'élevage charolais qui repose, qui peut être qualifié d'artisanal, donc avec une conduite des animaux de manière quasi individuelle qui est permise par cette variété. Et donc ça permet à la race charolaise de développer toutes ses potentialités. Et ce mode de conduite des troupeaux a marqué fortement le paysage depuis le 18e siècle et justifie et explique en partie cette division du territoire en une multitude de parcelles. Et ce sont donc des pratiques finalement empiriques, ça ne s'apprenait pas à l'époque dans les livres, mais ça se transmettait de père en fils, les connaissances en termes de connaissances des animaux, des prés, etc. Et donc ça donne une culture de l'élevage fondée sur des savoir-faire en matière de sélection des bovins, d'élevage, d'engraissement à l'herbe, de commercialisation, etc. Et on peut dire que l'élevage, en particulier au cœur du Brionnais, notamment celui réalisé dans le cadre de la démarche AOP, c'est un élevage finalement haut de gamme qui repose sur des pratiques et des savoir-faire ingénieux et subtils. Ce qu'on constate aussi, c'est que depuis plusieurs décennies, il y a eu des bouleversements qui ont affecté, on en a parlé, la filière bovine, et qui ont eu comme tendance d'uniformiser les modes de conduite des troupeaux et de banaliser l'utilisation de l'herbe en ne prenant plus en compte toute sa diversité, sa richesse et donc ses potentialités. Donc c'est des connaissances, des pratiques qui sont en train de se perdre, d'où la nécessité de les maintenir, et c'est en partie l'un des objectifs du projet de candidature à l'UNESCO, ce qui me fait la transition. Je voulais vous resituer le projet de la démarche UNESCO pour que vous ayez bien en tête comment avance en fait un projet. Tous les projets, donc c'est valable à l'échelle internationale, qu'on soit dans n'importe quel pays membre donc de l'UNESCO, on suit le même cheminement. D'abord l'évaluation de la faisabilité, ce que le pays Charolais-Brionnais a réalisé en 2013-2014. Ensuite le travail préparatoire au montage du dossier, on est dedans, et notre objectif c'est bien de se faire inscrire sur la liste indicative nationale. C'est pour ça que je vous ai mis en face une petite flèche bleue. Ensuite, cette étape est indispensable pour ensuite accéder aux étapes ultérieures, à savoir le montage du dossier de candidature, puis ensuite la sélection par l'État du dossier, l'évaluation par les organismes consultatifs et enfin l'examen et la décision finale de l'UNESCO. Donc ça explique aussi ces différentes étapes, le fait que le processus, la démarche soit assez longue. C'est bon. Donc, est-ce qu'il faut, c'est la diapositive suivante, très bien, c'est démontrer la valeur universelle exceptionnelle. Donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on doit démontrer que notre territoire, notre paysage culturel de l'élevage bovin charolaise a une importance culturelle et ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. Donc l'argumentation de la vue, c'est capital dans le dossier. Quand on lit la définition la première fois, ça fait un petit peu peur, donc après on s'habitue, mais derrière ça veut dire beaucoup de travaux scientifiques. Pour en revenir au bocage, donc c'est un héritage, mais c'est aussi un système qui est maintenu, qui se maintient aujourd'hui, qui fonctionne, qui a toute son utilité et sa place. Et dans notamment le cadre de cette démarche UNESCO, le pays Charolais-Brionnais soutient donc une structuration de la filière bois bocager portée par la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, avec des diagnostics de l'état des ressources qui sont réalisés donc à l'échelle des exploitations pour évaluer les quantités de bois pouvant être prélevées annuellement au niveau des haies ou des bosquets, etc. Et donc estimer le potentiel en bois de ces haies, anticiper une exploitation durable. Et dans ces cahiers des charges sont également données des préconisations pour améliorer la gestion des haies au niveau des hauteurs, des largeurs, des essences, etc. Et donc on est dans toutes ces démarches en lien avec l'agroforesterie, etc. Donc vous en parlerez dans quelques instants. Mais du point de vue de l'historienne que je suis, en fait, si on regarde un peu dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est en fait un retour à des pratiques qui avaient lieu déjà, qui se faisaient dans le passé et qui ont été abandonnées. Parce que qu'est-ce qu'on fait, par exemple, les paysans quand Louis XV, au XVIIIe siècle, a autorisé en 1770 la clôture des héritages et leur a interdit d'aller couper du bois dans les forêts? Ils ont planté des arbres dans les haies pour fournir du bois qui était à l'époque une ressource essentielle, donc des fagots, bois de chauffage, bois d'œuvre dont ils avaient besoin, etc. Donc on se rend compte en ayant une vision historique, en fait, un peu, en faisant une rétrospective historique, qu'au cours de l'histoire, les paysans du Brionnais ont été plus réactifs, l'agriculture brionnaise a été multifonctionnelle, donc ils peuvent l'être encore aujourd'hui et dans le futur. La démarche UNESCO, elle est compatible à diversification, j'ai deux lignes encore, diversification des productions et des activités. Elle est aussi compatible avec un retour à la culture de terre, notamment pour assurer l'alimentation du bétail, par exemple. Et toutes les pratiques, généralement, qui vont dans le sens d'un maintien du bocage et d'une dynamique autour de ce système ont leur place dans cette démarche et dans le territoire du Charolais-Brionnais.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va regarder maintenant, d'une part en direction du Gers, mais d'autre part aussi avec une vue plus large, puisque vous avez situé votre responsabilité au niveau national dans le domaine de l'agroforesterie, et pourrait essayer de comprendre ce que, à partir de ces pratiques-là, vous pouvez proposer ou inspirer pour un territoire comme celui du Brionnais.
Je vais essayer, c'est pas simple. Je vais quand même me reposer sur les solides épaules de mes agriculteurs. On a des dispositifs assez importants sur 25 départements dans le sud-ouest. Et sur 25 départements, on caractérise, c'est un petit peu nouveau, on caractérise des fermes, on met des indicateurs et on essaie de regarder ce qui rentre, ce qui sort, ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc du coup, on prend tous les agriculteurs, on a fait en sorte que le fil conducteur et l'amplificateur, l'amortisseur, le climatiseur, c'était l'arbre. L'unificateur, c'est l'arbre. Et on prend toutes les agricultures puisqu'on a bien vu, on l'a un peu évoqué ce matin et vous le savez tous, que toutes les agricultures aujourd'hui ont besoin d'évoluer. Je suis en conventionnel, j'ai besoin d'arrêter un certain nombre d'intrants, clairement. Je suis en agriculture biologique, je suis obligé de réduire un certain nombre d'intrants aussi. Et un intrant qui est catastrophique, qui s'appelle le travail du sol, et qui est en train de ruiner toutes les agricultures. Hein, le sol nu, ça n'existe pas, et le sol travaillé, ça n'existe pas non plus. Et c'est gravissime, puisque on a aujourd'hui 95% des sols travaillés en France, sous toutes les latitudes, sous toutes les formes d'agriculture, qui perdent de la matière organique tous les ans. Donc ils perdent du carbone, donc le carbone c'est un cycle premier, donc ils perdent de la biodiversité, ils perdent le cycle de l'eau, ils perdent de la productivité, de l'autonomie, etc., etc. Donc, au regard de ce que j'ai pu voir, je suis déjà venu, de ce que j'ai pu entendre, je vais vous montrer 3 ou 4 diapos, on va passer à la seconde, juste pour repréciser, puisqu'effectivement, la partie historique l'a très bien faite, qu'un arbre, ça produit des fruits, vous voyez ? Hein, mais ça produit des fruits au sens large, hein, n'est-ce pas ? Ça produit de la richesse. Et il semblerait que dans les pays et les paysages où il y a des arbres et de l'élevage, il y ait plus de richesse qu'ailleurs. Mais ça, c'est peut-être vous qui nous le redirez ou pas. Et puis un arbre, ça pousse avec rien. Et éventuellement, ça pousse sur du bois. Et vous savez probablement qu'un morceau de bois de cœur, c'est composé à 99,8% de prélèvements atmosphériques. Donc un arbre, c'est un créateur de sol. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Une petite définition de l'agroforesterie qu'on n'a certainement pas inventée. On a réussi à se mettre d'accord, ce qui est déjà bien. Hein, l'agroforesterie, ça englobe tout ça. Le bocage, il est dedans. Les haies aussi, les ripisives, les bouquets, les bosquets, les arbres alignés, les arbres isolés, les arbres morts, les arbres jeunes, les ronces, puisque la ronce est le berceau du chêne. Mais enfin, tout ça est connecté. Il y a des points bas, il y a des points hauts. Ce qui m'importe de dire sur cette image, somme toute anodine, c'est qu'il y a autant d'arbres ici, dans la forêt, que hors la forêt. Hein? Et ça, c'est extrêmement important, puisque notre avenir, il est de mieux gagner notre vie en agriculture, d'avoir des produits fléchés, d'avoir des produits courts, d'avoir des produits sains, d'avoir des produits de qualité, d'avoir des produits qui poussent sur des sols vivants avec des acides aminés qui circulent et des fruits nourrissants, etc. Mais c'est aussi de travailler cette question du climat, de l'atténuer, de s'y adapter, de la biodiversité, de l'eau qui arrive par choc dans des conditions parfois difficiles. Vous n'avez peut-être pas de prairies qui sèchent littéralement l'été ici, ou peut-être que vous en avez. Hein, et c'est aussi et surtout un problème de régulation de champs mycorhiziens, etc., etc. Donc ce maillage-là, qui est celui que l'on va inscrire au patrimoine mondial, il a aussi, évidemment, toutes les fonctionnalités sur l'eau, le sol, la biodiversité, le climat, le paysage, et fondamentalement la productivité agricole, puisqu'il en est le moteur, ou le maillon. Allez, soyons modestes, il en est le maillon, donc, mais le maillon dans une chaîne élémentaire de réparation des sols. Si vous enlevez l'arbre, ce maillon-là disparaît et derrière, vous avez des effets conjugués très importants. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors je zoome encore un petit peu, hein, puisque ces notions de territoire, de paysage, ces agroforesteries, elles appartiennent à ceux qui les font. Et votre bocage est suffisamment spécifique, effectivement, pour le souligner. Il y a bien une entrée territoire, terroir, paysage, production, filière, etc., etc. On va zoomer encore un petit peu, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter 2 minutes ici, parce que volontairement, j'ai décidé de ne pas vous parler de Charolais ni de Charolaise, parce que bon, ça va, quoi. Hein. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'œufs agroforestiers, puisqu'on réfléchit, comme d'autres, à un label, même si c'est difficile de réfléchir au label, il y en a déjà trop, n'est-ce pas ? Il n'empêche que si là tout de suite, sur cette image, je prends, soyons fous et tout de suite allons droit au but, je prends un œuf bio, ça vous parle ? Vous avez déjà tous goûté un œuf bio ? Ouais, c'est bon, hein ? Mais là je vais prendre un œuf bio agroforestier, si ça vous va. Le problème c'est qu'entre les deux, il y a une différence de 1 à 8, précisément. qui n'est pas qu'une valeur marchande, loin de là. Pourquoi y aurait-il une valeur de 1 à 8 entre un œuf bio et un œuf bio agroforestier, selon vous? Ça, ça s'appelle la digestion. Hein. Bon, mais la digestion va être active, puisque tout ce qu'on a mangé était très riche. Il n'est pas 8 fois plus gros, jusqu'à preuve du contraire.
Les minéraux.
Parce que je vais vous faire une confidence. Parce que je vous montre la poule pondeuse, mais c'est pareil pour toutes les cultures, la vigne, tout type d'élevage. Un animal qui est contraint par le vent, la pluie, le chaud, le froid, il ne sort pas quand il peut rester dans le bâtiment. Ça veut dire qu'on mesure que dans 92% des cas, 92 jours sur 100, l'animal ne sort pas. Donc il gaspille, donc il stresse. Stress égale toxine. Il patauge dans... Ah, vous m'avez enlevé l'œuf, mais tant pis. Vous n'avez peut-être pas fait exprès, ou c'est pour accélérer le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un poulailler, ça. Pardon, oui, je me suis mal exprimé. Et donc, dans plus de 90% des cas, l'animal va rester autour du bâtiment et patauger proprement dans sa merde. Donc cette notion d'agroforesterie qui est anodine et qu'on a, encore une fois, certainement pas inventée, elle va permettre la dispersion de l'arbre, mais surtout la dispersion de l'animal. Qui va aller manger des vers de terre? Qui va aller manger des insectes? Qui va aller manger des feuilles? Qui va aller manger des fruits? Et quelque chose en permanence. Et qui va avoir toujours une occupation. Mais je serais tenté de dire qu'une vache, quand elle peut choper une feuille, elle va la chercher. Parce que jusqu'à preuve du contraire, une feuille, c'est très riche, et en plus, il y a plein de substances médicamenteuses. Mais j'y reviendrai. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié en termes d'autonomie alimentaire et de gestion des troupeaux. Donc, ici, pour faire vite, mes arbres, ils vont stocker du carbone, ils vont produire, je sais pas, du mielat, de la propolis, éventuellement du pollen pour les pollinisateurs, etc., etc. Ils vont briser le vent, ils vont améliorer le cadre de vie, éventuellement, ils vont produire des fruits, donc je vais avoir une deuxième production sur mon parcours, etc. Donc, on pourrait le développer, mais... Et ça veut dire que quand on fait une mesure en laboratoire, on a les bons oméga dans l'œuf, on a un jaune qui est beaucoup plus ferme, on a un blanc qui se tient beaucoup mieux, on a une coquille qui se tient mieux. Donc ça, c'est un vrai sujet de société, me semble-t-il. Je le mets sur l'œuf, encore une fois. On peut le mettre sur tout un tas de choses. Mais ça veut dire aussi que mes animaux qui sont moins stressés et qui sortent, ils vont avoir un indice de consommation inférieur de 12%. Donc là, il y a une petite économie. Hein. On parle des crises, on parle des coûts de production. On a beaucoup parlé ce matin du prix de vente. Cet après-midi, on va parler du coût à produire. Parce que quand on arrête le travail du sol et quand on travaille avec du génie végétal, et il y avait un super livre sur le ver de terre, mais je suis désolé, il a déjà été vendu. Hein. Et quand c'est les vers de terre qui font le boulot, je peux vous dire qu'on en économise de l'argent. Voilà. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Rapidement, parce qu'ici, les haies sont un peu basses, on pourrait les laisser monter, non? Ce serait sympa. Enfin, je sais pas, je dis ça un petit peu... Donc voilà une haie qui monte. Hein. Bon, celle-là est en bord de route, avec tout ce que ça veut dire en termes de tenue mécanique. Chez nous, il y en a un peu moins qu'ici. On parle de régénération naturelle assistée, et on considère que c'est aussi un pilier de l'agro... Un arbre qui va pousser tout seul, la ronce étant le berceau du chêne. Hein. C'est important. Parce que ça coûte pas cher de laisser pousser, on va gérer, et c'est bien le problème qu'on va avoir ici, quelque part, comme partout. On a du patrimoine, mais on a un patrimoine qui est vieillissant, qu'il faut impérativement renouveler. Parce que sinon, il va s'effondrer. Quelques petits résultats de la recherche. En céréales, ici, c'est de la même façon, ça marche en prairie. L'idée, c'est de laisser pousser, planter, remettre des arbres, disperser ces arbres dans le territoire, bien évidemment, et de les faire jouer en symbiose et en complémentarité avec tout type de culture à l'intérieur. Donc ça, c'est du noyer qui est taillé pour faire du bois d'œuvre, et c'est un noyer double fin, et pour faire du fruit. Et puis, je vais passer à la dernière diapositive, et m'arrêter un petit peu sur cette image. J'en ai vu plein ce matin. Il faut dire que je suis venu en bus, donc j'avais le temps. Mais d'ailleurs, bizarrement, tous les troupeaux qui pouvaient avoir de l'ombre étaient à l'ombre ce matin. C'est bizarre. Hein. Je vous ai fait quelques photos, ça vous intéresse, mais ça va vous rappeler le boulot ou le quotidien, en tout cas. Hein. Bizarrement, ils étaient à l'ombre. Pourtant, bon, on avait soleil modeste. Je m'arrête un petit peu sur cette image. On va retrouver un système racinaire. Alors, c'est un peuplier noir. C'est juste pour vous montrer que tout ce que vous savez des arbres en agroforesterie, il faut l'oublier. Ça marche pas du tout de la même façon. Et ici, vous avez un peuplier qui a en principe un système racinaire traçant qui ici, bizarrement, va être en dessous du profil utilisé par la culture. Je pourrais être en prairie permanente, c'est à peu près la même chose. Mais si je m'arrête là-dessus, c'est parce que cet arbre têtard que vous connaissez bien, ou pas, hein? Là, je prends une forme parmi d'autres, ça c'est une forme des Pays de la Loire, mais comme je sais que vous êtes super ouvert d'esprit, je ne suis pas obligé de vous mettre une trogne d'ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme super avantage cet arbre têtard, alors que le paysan a sublimé, hein, le castor l'a inventé, ou peut-être la tempête avant, ou le feu, je ne sais pas, on ne sait pas trop qui a inventé l'arbre têtard. Hein. Un arbre, vous le savez, hein, c'est fait pour être taillé. Ça ne supporte pas de ne pas être taillé, vous saviez ça? Hein, ça ne s'arrête jamais de grandir, et ça aime être taillé tous les jours. Vous êtes clair avec ça? Hein, il n'y a pas de souci. C'est un producteur, ça grandit, etc. Quel peut être, d'après vous, le rôle génial de cet arbre têtard, même s'il en a plein? Là aussi, il y a un bouquin dessus de Dominique Mention qui est plutôt très très bien renseigné. Non, vous savez pas? Vous n'avez pas l'air de dormir, pourtant. Combien de temps il me reste pour les réveiller? Ça va? Ils dorment pas? Ils apprennent. Nous avons des apprenants. Nous avons des apprenants. Mais c'est bien ça. Pourtant, c'est des trucs qu'on les apprend en CM2. Hein. Peut-être en CM3, je me souviens pas bien. Hein. Ça s'est bien passé pour vous, le CM3? C'est comme ça qu'on devient histoire. Ah oui, c'est ça. Alors, le truc génial de cet arbre têtard, c'est qu'il était omniprésent. On le voit encore partout. Hein. Ben, déjà, il suffit de le remettre en production. Mais surtout, lui là, il va vous faire du bois sans que vous le coupiez jamais au pied. Vous vous rendez compte? Alors on va s'entretuer, dans 5 ans, on va s'entretuer pour la biomasse, avec les réseaux de chaleur qui se montent partout. Le moindre morceau de bois vaudra une fortune. Donc, je pense à vous notamment, enfin à vous tous, mais le pillage du bocage, on connaît aussi. Hein, et la gestion fine et la gestion paysanne du bocage, c'est tout autre chose. Mais ça, ça produit du bois sans qu'on coupe jamais l'arbre au pied, et ça en produit de plus en plus. Donc, il y a juste un truc sur lequel je n'étais pas d'accord avec vous. Je suis désolé, hein. Je vais le dire en public. Je vais le dire en public. C'est la notion d'extensif. Ça n'existe pas, l'extensivité en agriculture. Il ne faut jamais que ça soit extensif. L'agriculture, ça doit toujours être hyper intensif. L'agriculture, ça doit en permanence copier le modèle de la forêt. Les sols appellent des plantes les plus grandes possibles dans un laps de temps le plus court possible. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est absolument fondamental. Si on ne copie pas le modèle de la forêt, et c'est ce qui est en train d'arriver un peu ici, me semble-t-il. J'ai vu quelques plantes dites bioindicatrices qui montrent qu'il y a des zones de compaction importantes, qu'il y a des zones de surpâturage importantes, etc., etc., et qu'il y a des zones dans lesquelles on manque d'arbres, parce que les arbres vont réguler, redistribuer et amplifier tout ça. En tout état de cause, quand j'ai un arbre têtard comme ça, voire plusieurs, ou quand je les remets en production, ben j'ai du bois de chauffage, éventuellement, ou d'autres usages. J'ai du bois que je vais broyer, et je sais que au lycée, vous faites déjà des expérimentations de litière. J'ai aussi du fourrage, j'ai de la feuille, j'ai de la fine branche et du bourgeon. Et là aussi, pour jouer sur la question des protéines et sur l'autonomie, ben, il faut peut-être remonter dans les arbres, mais aujourd'hui on sait mécaniser, on sait travailler, on peut faire manger la feuille et récupérer le bois, le broyer pour faire la litière. Sortir la paille des champs, c'est une catastrophe, ça coûte cher. Et si vous sortez dans le Massif Central, on a 650 éleveurs qui font de la litière sur une base bois broyé. Et ça coûte bien moins cher de faire la litière sur une base bois broyé que de faire monter de la paille ou descendre de la paille de je ne sais où. Et puis ça évite de sortir la paille des champs, qui est quand même une catastrophe agronomique de premier plan. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a tous ces petits ajustements qui fait que, ben, moi je serais tenté de dire que les agriculteurs, donc il y en a dans la salle, donc j'ose imaginer qu'ils vont s'exprimer, mais en mutualisant un petit peu les moyens, les principes, en faisant des essais, en faisant quelques vérifications, on a quelques degrés, quelques marges de manœuvre sur lesquelles on peut gagner, et tout ce que l'on a fait nous, qui ressemble un petit peu à ça, malgré tout, dans certaines zones, montre les marges de progrès possibles, montre les économies et les gains de productivité que l'on peut avoir grâce aux arbres. Parce que quand vous arrivez, en réduisant un certain nombre de coûts et en ayant une valeur ajoutée supplémentaire, et que cette valeur ajoutée supplémentaire, elle représente 10 à 12% de votre chiffre d'affaires, je peux vous dire que le résultat final, il n'est plus tout à fait le même. Voilà. Voilà un petit peu ce sur quoi on travaille. On pourrait le développer un peu plus. Je pourrais dire qu'avec ces formes-là, qui sont pas des formes exclusives, hein, il n'empêche qu'elles ont beaucoup fonctionné et on travaille beaucoup dessus parce que ce sont des formes d'avenir absolu. Ça veut dire que quand vous taillez l'arbre, vous remettez de la lumière. Et on a dans le sud-ouest en tout cas un gros programme en viticulture parce que vous l'aviez remarqué, mais le degré monte énormément. Et on ne sait plus comment tenir les sols et les degrés dans les vins. Et en rééclairant, vous réitérez le système racinaire de votre arbre. Donc dessous, ben, vous avez à nouveau de la prairie. Vous avez des systèmes agroforestiers qui fonctionnent bien de par le monde. En dehors des tropiques qui sont des systèmes, les tropicaux sont un petit peu différents, mais les systèmes agroforestiers qui fonctionnent bien, ils sont en règle générale basés sur ce modèle des arbres têtards. Et vous avez la tête qui se creuse, hein, on dit que c'est beau, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais la tête se creuse et la tête devient très riche. Donc c'est dans cette tête-là qu'on va trouver le pic-prune, qu'on va trouver la chauve-souris, qu'on va trouver la chouette, etc., etc., des essaims d'abeilles. Donc c'est l'idée que la biodiversité, elle se travaille dans le sol. Moins on le touche et moins on l'asperge, mieux il se porte. Plus on lui met des plantes poussantes et fraîches, le compost n'a aucun avenir, vous le saviez peut-être, hein, mais ça sert à pas grand-chose. Et vous avez ici un très haut niveau de biodiversité dans vos parcelles. Et c'est tout le travail qu'on peut avoir à faire ensemble, j'espère en tout cas, c'est de montrer qu'on peut conjuguer biomasse et biodiversité, parce que c'est pas acquis ça, c'est pas acquis dans les projets, c'est pas du tout acquis. On peut conjuguer protection et production, c'est pas antinomique. On peut faire les deux, on peut faire des choses bien, et je pense que vous en êtes, enfin je pense pas, j'ai pu constater que vous en êtes de très fiers représentants. Reste à transformer l'essai et à remettre ces bocages en production, en les régénérant, en les travaillant correctement, en mécanisant. Aujourd'hui, on peut laisser monter des haies et avoir des machines qui taillent correctement et qui aspirent la matière. Ça veut dire que l'entretien d'une haie, quand aujourd'hui je mets sur la table 2000 euros par ferme pour entretenir les haies, aujourd'hui, peut-être qu'au lieu de mettre 2000 euros pour entretenir les haies, je vais en mettre 1200 tous les 3 ans, et derrière, j'aurai un produit qui en vaudra 2000. C'est pour ça qu'on met des indicateurs aujourd'hui sur les fermes et qu'on mesure tout. Et quand on commence à tout mesurer, on n'est plus dans la politique du doigt mouillé, parce que sinon c'est j'ai une benne de blé. Oui, ben oui, elle est pleine ou elle est pas pleine, ça dépend de sa taille, hein, vous allez me dire. C'est juste la question de sa taille. Voilà. Voilà où nous en sommes. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il reste plus beaucoup de temps d'après ce que j'ai vu sur le papier. Et puis ça permettra de laisser peut-être un peu de place à la discussion.
Merci. Merci d'avoir tenu le temps aussi. Eric Niguet, donc on se rapproche à nouveau du Brionnais avec en passant à votre fonction dans l'établissement voisin CFPPA. Et puis vous avez mentionné aussi ce travail avec les jeunes ou moins jeunes qui s'installent. C'est intéressant parce que c'est ça aussi qui permet quelquefois de repérer des tendances, motiver certaines propositions.
Alors, on m'a demandé de parler un petit peu notamment des porteurs de projets et de l'évolution que je ressentais depuis 25 ans où je suis au CFPPA. Voilà, 25 ans en BPREA notamment. Alors, déjà au niveau des installations dans le circuit, on connaît un peu bien que la moitié des installés à peu près, hein, puisqu'il y en a la moitié qui s'installent, enfin qui reprennent des exploitations sans aide. Soit parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge des 40 ans aujourd'hui, soit parce que ils font le choix de s'installer sans aide. Voilà.
Soit parce qu'ils ne sont pas français aussi.
Hein. Ça peut arriver aussi, oui. Non, mais.
L'aide est réservée aux Français.
Européens. Non, je crois pas. Enfin, il me semble que non. Enfin bon. Alors, en termes de typologie des publics qu'on accueille, j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on avait comme personne il y a une vingtaine d'années. Donc effectivement, on avait une grosse majorité de jeunes qui sortaient de BEP, qui venaient chercher la capacité professionnelle de niveau 4, ou qui étaient en échec bac pro, toujours pour les mêmes raisons, fils d'agriculteurs, éleveurs bovins pour la plupart. Hein. On avait en complément des conjointes d'éleveurs, toujours bovins en général, qui avaient pour projet de s'installer avec leur conjoint suite au départ en retraite du père ou du beau-père. Voilà. Quelques reconversions professionnelles. Alors, dans les reconversions professionnelles, une partie majeure de gens qui étaient du lieu, enfin locaux, et qui étaient partis ailleurs, des fois des fils d'exploitants aussi, mais qui revenaient après une expérience ailleurs, de salariés ou autres. Et puis quelques rares reconversions professionnelles, je dirais, de vrais hors cadre, familiaux, donc dans des projets des fois un petit peu différents, mais un petit peu plus souvent en dehors de l'élevage d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Donc, progressivement, on a eu une augmentation des hors-cadres. Ben, la population des fils d'agriculteurs, comme la population des agriculteurs, se réduit. Donc, forcément, pour prendre la suite, ben, il faut aller chercher des forces vives ailleurs. Et donc, on a vu augmenter un petit peu les hors-cadres. Des vagues de projets, pas des projets vagues, hein, des vagues de projets dans des domaines un petit peu nouveaux, avec la loi, enfin l'intégration de l'équin dans le monde agricole. On a vu arriver des séries pendant 4-5 ans, là on a eu des séries avec des nombres non négligeables de porteurs de projets en équin. Voilà, là, ça y est, c'est recalmé un petit peu. Enfin, on en a beaucoup moins maintenant. Voilà, mais c'était souvent des gens qui venaient pour, stabiliser des situations existantes. Prendre le statut agricole sur des exploitations, des projets, enfin, des activités qui existaient déjà, mais qui étaient hors agricole. Donc, du coup, ils venaient dans ce cadre-là. Voilà. Du coup, ces projets-là, finalement, ben, quand on regarde avec le recul maintenant, ils ont pas si mal fonctionné que ça. On pourrait croire que les projets équins, ça tourne pas, mais il se trouve que c'était souvent des gens qui tournaient déjà avant, donc ça les a pas empêchés de tourner. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, qu'on n'avait absolument pas il y a même 10 ans, ou vraiment très très exceptionnellement, c'est des projets maraîchage. Alors là, c'est pareil. Là, régulièrement, on en a 3, 4, 5, peut-être plus à la rentrée, tous les ans. Voilà. Ça montre un vrai besoin et une vraie envie des jeunes et moins jeunes d'aller sur ces productions-là. J'ai vu ce matin les chiffres de Bio-Bourgogne sur l'augmentation des projets, enfin des installations en bio, la croissance assez rapide qu'il y a eu ces 4-5 dernières années, je l'avais bien ressenti dans les projets. On voit qu'il y a de plus en plus de sensibilité au bio et de plus en plus de gens qui s'intéressent et qui vont finalement en bio. Voilà. Et puis aussi augmentation, enfin oui, si on peut dire une petite augmentation sur les circuits courts. Voilà. Et surtout, une diversité de plus en plus importante des projets. Dans nos groupes, on a aujourd'hui une variété très 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 importante. Si je résume, je dirais en gros un tiers de projets bovins viande maintenant. C'était 90% il y a 20 ans ou 25 ans. Un deuxième tiers dans des projets d'élevage petits ruminants, donc on retrouve de la chèvre, on commence à retrouver du mouton, l'élevage ovin a repris des couleurs depuis quelques années avec la relance ovine et puis avec le rééquilibrage de la PAC, on parlait de la PAC tout à l'heure, voilà. Un troisième tiers qui serait parti, pour moitié en maraîchage, et puis je dirais pour l'autre moitié dans des projets plus rares, donc on retrouve le cheval, les volailles, en volailles spécialisées, style pondeuse ou autre, l'apiculture, quelques apiculteurs, l'agrotourisme aussi. Et puis là, dans cette catégorie, je remettais le cheval, à ce niveau-là. Voilà. Sur l'origine des publics, eh ben, rarification des cadres familiaux, donc de plus en plus de hors-cadres, et des gens qui viennent aussi d'autres milieux professionnels, des mobilités professionnelles relativement importantes. Voilà. D'où des, je dirais, petits projets en termes d'investissement, en termes de surface utilisée, qui sont de plus en plus fréquents. Ça n'empêche pas la grosse difficulté qui reste, et on parlait d'espace-test tout à l'heure notamment, mais c'est pour l'accès au foncier pour ces petits projets. Tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait de son exploitation, qui était parti à l'agrandissement. C'est une tendance relativement lourde, et les petites structures qui pourraient satisfaire des projets qui demandent peu de surface, eh ben, elles partent à l'agrandissement, et du coup, voilà, c'est compliqué. Et ça, il n'y a pas toutes les politiques du monde ont du mal à gérer ça. Commission des structures ou pas, c'est assez complexe. Notre boulot à nous, c'est d'accompagner les projets, c'est d'essayer d'ouvrir les stagiaires à des nouvelles ou des anciennes nouvelles pratiques. J'ai bien aimé tout ce que vous avez dit sur l'histoire, et c'est vrai que redire que dans notre Charolais-Brionnais, il y avait de la culture, qu'on peut faire un peu de céréales pour nourrir son bétail, que c'est pas impossible, qu'on peut engraisser aussi, tiens, on s'en rappelle même plus, ben c'est pas forcément évident de le faire comprendre et de le faire accepter à des gens qui ont l'impression que le broutard existe depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément sur les porteurs de projets un petit peu nouveaux? On peut généraliser à l'ensemble des futurs agriculteurs. Le métier d'agriculteur, c'est un métier passion. C'est un métier passion qui est parfois idéalisé par les gens qui nous contactent et qui viennent en formation. J'ai mis entre guillemets, j'ai mis converti sur mon papier là. Voilà. Du coup, la vision réelle, réaliste du métier est pas toujours bien mesurée. Et notamment en termes de quantité de travail, en particulier de travail d'astreinte, en matière de rentabilité, de liberté aussi. Il y a souvent l'aspiration de la liberté à la liberté pour les gens qui viennent s'installer en agriculture. La liberté, elle existe dans l'organisation quotidienne, mais elle est toute relative par rapport à tous les aspects réglementaires qu'on a. Voilà. La réalité du marché aussi, il y a des fois on idéalise certains, enfin, on a l'impression qu'il y a des marchés et c'est pas forcément évident. Donc on essaye de travailler un peu sur ces différents points-là, le travail, le marché, etc. Oula. Ça va aller. Voilà. Si je reviens au niveau technique, eh ben, j'ai déjà dit des choses là sur tous ces aspects culture. En fait, effectivement, je partage totalement ce qui a été dit juste avant sur le fait que tous les savoirs ancestraux qui ont forgé notre patrimoine, ben, en fait, on les a oubliés et il faut impérativement revenir aux essentiels. Le fonctionnement, la vie du sol, le fonctionnement animal, tous ces éléments-là, c'est vraiment la base, le béaba pour arriver à sublimer le travail d'agriculteur. Je dirais que la notion de recette, à laquelle j'ai jamais cru, mais la notion de recette existe encore moins en bio ou dès qu'on veut limiter les pratiques, je dirais, de l'intensification. Voilà. Remarque aussi, le Brionnais n'a pas été très, enfin c'est pas une zone, Charolais Brionnais d'ailleurs les deux, c'est pas des zones où le modèle de développement intensif, enfin où on développe à bloc ce qui s'est passé dans les années 60 à 80, n'a pas vraiment pris, les gens ont résisté à ça. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on a l'impression que ce message-là continue à faire ses effets et qu'on a du mal un peu, enfin c'est un peu le Titanic, là, on met longtemps à tourner, quoi. On a mis longtemps à tourner vers le développement et j'ai peur qu'on mette trop longtemps à revenir vers le bon sens. Et la valorisation du patrimoine. Voilà. En gros, de mon point de vue, il faut essayer de miser effectivement sur les signes de qualité, aller au bout du produit, parce que c'est par là qu'on ramènera de la valeur ajoutée. Voilà. Et puis, l'autonomie fourragère, autonomie en termes d'intrants. Diversifier au niveau du territoire, au niveau de certaines exploitations aussi. Voilà. Voilà, donc reprenons les fondamentaux en main. Et ça marchera si on communique et si on travaille ensemble.
C'était donc les trois premiers intervenants sur la table ronde qui avaient pour thématique « Quelle stratégie pour le maintien et le développement de fermes sur le territoire, le bocage brionnais, diversification, évolution des pratiques, pluriactivité, multifonctionnalité ?»